Alors, ce petit livre vient étonnamment finalement dans mes travaux sur l'histoire orale et les archives orales. Il vient en quelque sorte conclure tout un cycle d'études que j'ai entrepris il y a finalement presque 30 ans, 1987-2017, oui, c'est ça, quasiment 30 ans, sur la source orale. Donc en fait, c'est à la fois un bilan historiographique et un petit essai. Ce petit essai qui fait le point à la fois sur l'historiographie, comment cette démarche d'utiliser la source orale, qui a longtemps été entravée en France, s'est, contre toute attente, développée dans la fin du XXe siècle. Et ce petit essai aussi fait un bilan des travaux et trace des perspectives. Curieusement aussi, mon propos s'est déplacé. Au début, il y a 20 ans, j'avais plutôt mis l'accent sur la question de la méthodologie, de l'archivage des sources orales. Et il me semble qu'ici, il y a deux directions nouvelles. C'est d'une part la question du patrimoine, c'est-à-dire est-ce que les sources orales peuvent constituer un patrimoine pour l'ensemble de la société française ou bien pour certains groupes sociaux? D'autre part, deuxième axe, c'est la mémoire qui ressort aujourd'hui. J'ai toujours été frappée par le fait que c'était les médiévistes et les historiens et les modernistes qui en fait avaient soutenu les débuts de l'histoire orale. Et je me suis toujours dit, peut-être que Jacques Le Goff aurait aimé entendre la voix, peut-être pas de Saint-Louis, mais peut-être de son conseiller, Joinville, ou que Arlette Farge, qui a beaucoup travaillé sur les archives de la justice, qui sont en fait des archives de l'oralité, mais mises par écrit, puisque les greffiers servent à ça, à écrire. Mais donc finalement, peut-être qu'elle aurait aimé entendre les voix de ses plaignants. Et finalement, l'histoire orale, c'est ça, c'est entendre la voix des acteurs du passé, mais non pas mise par écrit, mais avec ses inflexions, avec ses accents, sa manière de parler, ses tonalités. Car on ne parle pas au XXe siècle ou au XXIe siècle comme on parlait autrefois. Il suffit de regarder, d'écouter les voix de la radio, de la télévision, de l'ORTF. C'est impressionnant comme on ne parle pas de la même manière. Donc il y a la question des contenus. Ça, on a toujours su faire. On met par écrit. Et puis ensuite, on étudie cette source, on la confronte, on la compare, on la critique. Mais qu'est-ce qu'on fait des voix? Et donc en fait, c'est ça l'innovation du XXe siècle. Et maintenant du XXIe siècle, c'est enregistrer ou filmer la parole. Et donc ce petit livre, il fait le point de tout cela et finalement il met l'accent sur l'archivage. Peut-on archiver la mémoire? Et derrière la mémoire, qu'est-ce qu'on fait aussi? On archive en fait des vies ou des histoires de vie. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Bien sûr, on a archivé les traditions populaires, il y a toujours une littérature mémorialiste, mais elle était plutôt faite pour les élites. Alors que là, ce sont des gens ordinaires qui parlent et qui sont enregistrés, qui sont archivés pour être ensuite transmis aux générations futures par le biais des institutions patrimoniales, qu'elles soient celles du ministère de la Culture, peu importe, ou celles du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc voilà, comment est-ce qu'on passe de la parole qui, par le biais de l'archivage, va pouvoir être transmis aux générations futures, qu'elles soient des citoyens ordinaires ou que ce soit. Ça, c'est un enjeu aussi qui apparaît dans ce livre. C'est est-ce que ces archives peuvent être utilisées par les chercheurs qui ne les ont pas construites? Parce qu'en sciences sociales, quasiment tous les chercheurs créent collectent des témoignages ou créent, ou plutôt manient l'entretien de recherche. Donc, ils enregistrent la parole. Mais qu'est-ce qu'ils en font de cette parole? Ils l'utilisent pour leurs travaux. Le défi des archives orales, c'est de dire, et c'est vraiment un défi aujourd'hui, y compris pour des questions juridiques, c'est est-ce que ces paroles enregistrées il y a 20 ans, il y a 30 ans, quelquefois il y a 50 ans, est-ce qu'elles vont pouvoir être utilisées par d'autres chercheurs? C'était le rêve d'historiens comme Guy Tullier ou Dominique Schnapper, qui est aussi sociologue, de dire nous créons des archives pour l'historien du futur. C'était il y a 50 ans. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser ces archives? Est-ce qu'ils ont eu raison d'avoir ce rêve? Ou est-ce que ça n'est pas possible? Donc c'est dans ce livre, c'est toute cette discussion. Et donc il y a plusieurs niveaux. Il y a la transmission patrimoniale pour les citoyens ordinaires, pour les gens ordinaires. Il y a la question de la recherche, il y a la question de qu'est-ce que le patrimoine et est-ce qu'on peut patrimonialiser la mémoire, c'est-à-dire un moment spécial. Si on prend Pierre Nora, qui a bien identifié à la fois le tournant patrimonial, le tournant de la mémoire, au tournant des années 70 et 80, je pense qu'on n'en est pas réellement sorti de ce tournant de la mémoire, c'est même approfondi. Et est-ce que ce petit livre, c'est aussi un outil pour à la fois approfondir ce tournant de la mémoire, peut-être pour en sortir, qui sait, et en tout cas pour le mettre en œuvre de façon réflexive. Alors ce livre, donc, comme je vous le disais, il fait le point par rapport à mon premier livre, mais aussi par rapport au début de l'histoire orale en France, qu'on peut dater de la fin des années 60, du début des années 70. Et il permet aussi de rendre hommage à toute une série de pionniers de cette histoire orale, comme par exemple Philippe Joutard, mais aussi Patrick Fridançon, qui écrit la préface de ce livre et qui a été un des pionniers de l'histoire orale, à la fois du côté, et c'est assez improbable, du côté de l'armée de l'air, pendant le service militaire, mais aussi, bien sûr, pour l'histoire orale ouvrière ou sociale, ou pour l'histoire orale des entreprises. Donc c'est intéressant, et je le remercie d'avoir fait ma préface, parce que, en fait, la boucle est bouclée. Il a commencé il y a 40 ans ou 30 ans. Moi, j'ai commencé aussi il y a 30 ans. Et donc, c'est une sorte de bilan qu'on fait l'un et l'autre, finalement, de ce mouvement qui a mis du temps à s'épanouir en France, qui était beaucoup plus développé, bien sûr, en Amérique, mais aussi dans les autres pays d'Europe, mais qui, là, aujourd'hui, après un temps de latence, moi, je pense que ça a été un temps, justement, de collection, de création de ces collections. Eh bien, après ce temps de silencieux, de création de collections thématiques d'archives orales, eh bien, l'histoire orale va peut-être pouvoir se déployer aujourd'hui, au XXIe siècle. Il a fallu du temps, mais c'est le temps des archives, c'est le temps des historiens, c'est le temps de l'historiographie qui met du temps à prendre en compte la parole individuelle, qui met du temps à prendre en charge la subjectivité. Et peut-être que, voilà, lors de l'histoire orale, qui a sonné bien avant dans d'autres pays, peut-être qu'elle sonne maintenant au XXIe siècle et que ce petit livre va aider à son déploiement.